Vibrant, vibrante, le podcast qui brise les tabous de la sexualité.
On peut faire moins de bébés avec beaucoup plus d'amour.
Cette philosophie du plaisir qu'on trouve partout, à tout moment.
Des gros plans sur les gros seins, les grosses fesses de la nana et sur son plaisir à elle qui est exclusivement donné par un homme.
Dans les périodes addicto porno, j'ai plus de libido. Je rencontre une nana, je bande plus, je sais plus réagir normalement.
Ah, notre périnée, on l'aime autant qu'on ne le connaît pas. On le découvre à une séance de pilates, après un accouchement, ou bien un jour on apprend à son mec qu'en fait lui aussi il a un périnée et que c'est peut-être important de le muscler. Et puis on se dit, bah tiens, ça c'est à moi quand on le découvre. On sait pas comment c'est, on sait pas à quoi ça sert, mais il va peut-être falloir en discuter. C'est pour ça qu'on va parler de ce sujet aujourd'hui qui est essentiel. Et pour en parler, on reçoit Laurence Montelafort. Bienvenue.
Merci de m'avoir reçue.
Alors Laurence, tu es masseuse kinésithérapeute, tu es aussi sexologue et prof au DU de Paris. Première question, pourquoi avoir choisi de te spécialiser dans le périnée ?
Ouh là là, je pense que dès l'âge de 16 ans, je voulais être sage-femme au départ. Et puis finalement, j'ai eu le concours de kiné, j'ai fait kiné, mais ça m'a toujours interpellé le petit bassin. Au départ, pas forcément le périnée, mais le petit bassin. Et un des moyens de pouvoir le découvrir ou de l'appréhender en kinésithérapie, c'était la rééducation périnéale.
Très bien. Alors, on va en parler parce que je pense que certaines qui nous écoutent ne savent peut-être toujours pas qu'elles ont un périnée et à quoi ça sert. Mais Carole, déjà, est-ce que c'est un sujet que tu abordes souvent dans ton cabinet ?
Oh bah oui, très régulièrement, à chaque fois que des femmes ont des problèmes divers de douleurs. Et puis dans la masturbation, quand on apprend aux personnes à se masturber, que ce soit hommes et femmes, on est obligé de leur parler de leur périnée et de voir jusqu'où ils ont des sensations et qu'est-ce qu'ils ont comme sensations et comment ils vivent avec leur périnée.
Alors Laurence, maintenant c'est le moment où on va enfin tout savoir sur le périnée. Où est-il ? À quoi il sert ? C'est quoi son rôle ? C'est quoi ses fonctions ? Raconte-nous tout.
Ouh, vaste sujet. Où est-il ? Alors, on l'appelle aussi plancher pelvien, donc il faut bien voir qu'il vient faire le fond du bassin. C'est lui qui termine tout le tronc du sujet. Donc, il s'insère sur le bas du bassin. Il est en lien avec tous les organes du petit bassin qui vont être la vessie, pour la femme, le vagin, pour le rectum. Et il ferme ces trois orifices. Donc, il a une fonction à la fois dans la miction, à la fois dans la défécation. Et il a une fonction également dans la sexualité.
Quelle taille il a et de quoi est-il constitué en fait ? Parce que tu dis qu'il vient lier et terminer, de ce que j'ai compris. Mm-hmm. Si tu pouvais nous décrire un dessin du périnée, ouais. Comment est-ce qu'il est ?
Si je pourrais vous décrire, je dirais que c'est un hamac. Il faut que vous représentiez un hamac qui va du coccyx au pubis, l'os qui est devant, qu'on peut toucher devant, qui est assez dur, et de part et d'autre des ischions. Donc, il faut voir ce grand hamac. Et en fait, il est fait d'un enchevêtrement de muscles.
Donc, c'est un muscle, le périnée.
C'est un muscle. C'est un muscle et un muscle strié. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un muscle qu'on peut commander.
OK.
Donc, ce qui n'est pas le cas de tous nos muscles. Et autre question, si je pourrais en décrire plus. Chez la femme, on distingue bien un périnée antérieur et un périnée postérieur. Avec c'est la ligne des ischions, les petits os des fesses sur lesquels on est assis, qui va déterminer l'avant du périnée chez la femme et l'arrière du périnée. Chez l'homme, on le distingue moins parce que en fait, il n'y a pas de vagin. Donc du coup, on fait moins ce distinguo entre le périnée antérieur et le périnée postérieur, parce qu'il n'y a que l'orifice postérieur et l'urètre.
Et peut-être ce qui fait justement que, en fait, quand on explique à quelqu'un, bah en fait, oui, toi aussi, tu as un périnée, majoritairement, enfin, peut-être les femmes en ont entendu parler, mais c'est quand même moins le cas, non ?
Oui, en fait, c'est surtout que c'est un muscle qui est non visible.
Ah, ok.
Et ça, ça, en fait, si on regarde toute notre musculature et quand on fait de la rééducation, bah, on peut montrer, bah, tu vas faire comme ci, comme ça. Et là, ce muscle-là, il faut le mobiliser et en fait, on ne va pas le voir. Donc, ça veut dire qu'il va falloir être en lien avec ses sensations corporelles. Et ça, c'est quelque chose qu'on développe peu. Qu'on développe par le pilates, le yoga ou les choses comme ça. Mais finalement, de mettre la personne où c'est, où on va dire que c'est nouveau ces derniers, enfin, à l'heure actuelle où on est plus dans ces sensations corporelles, mais ce n'est pas quelque chose qu'on développe. Donc du coup, c'est compliqué pour les gens parce qu'ils veulent se raccrocher à un support visuel qu'ils ne vont pas avoir. Il va falloir faire confiance à sa sensation. Et puis, il faut dire aussi que c'est un muscle à une histoire un peu particulière. Dans le sens où il est en fait, c'est un muscle érotisé.
Laurence, je pense que ce serait important que tu puisses nous raconter l'histoire du périnée par rapport à sa, comment il est dans notre corps, par rapport à comment il se positionne et qu'est-ce qui fait qu'il est si invisible que ça.
Alors, en fait, on l'appelle aussi diaphragme. Et diaphragme, ça veut dire que c'est un muscle qui est horizontal dans le corps, comme le diaphragme respiratoire. Le diaphragme respiratoire, moi je dis souvent que c'est comme un parapluie ouvert sous vos côtes, et le périnée, il est dans le sens inverse et dans le horizontal de la même manière. Il y a peu de structures dans le corps qui sont horizontales, il y en a 5. Il y a la plante des pieds, il y a le périnée, il y a le diaphragme respiratoire, il y a le plancher buccal et il y a la tente du cervelet qui est une séparation entre le cortex, le haut cortex et le bas cortex, tronc cérébral en dessous. Et en fait, ces structures-là, elles ont un mouvement dans le corps, c'est qu'elles vont faire un mouvement au bas. Et du coup, ça génère dans le corps, dans la globalité du corps, des mouvements au bas qui vont être très importantes dans la dynamique du corps. Quand on respire, voilà, ça va amener un mouvement descendant, remontant. C'est la base de la respiration et l'importance aussi de la concordance de ces diaphragmes. Dans le sens où s'il y a une bonne rythmicité, c'est que tous ces diaphragmes fonctionnent en même temps. Mais s'il y en a un qui est contracté, bah, ça joue, ça nuit, ça va avoir une incidence sur les autres. Et ce sont des muscles très émotionnels. Au niveau de la prend la respiration, on a peur, on a un sursaut, il y a tout de suite une contraction du diaphragme respiratoire et donc périnéal qui est emmené avec. Donc ce qui en fait aussi un muscle très émotionnel et très lié à toute la globalité du corps, à la fois l'avant, l'arrière du corps. Le périnée, il sépare aussi le haut du corps, le tronc avec le bas du corps, et il en fait également la reliance. C'est-à-dire que un périnée tout contracté, ben c'est un moins bon passage de la circulation vers le bas du corps, vers les pieds.
Tu vois, c'est comme ça, grâce à ça, grâce à cette explication, on comprend bien l'importance, on le visualise bien, et on voit bien que c'est important de connaître son périnée pour être bien dans sa sexualité. Parce qu'il faut qu'il y ait de la fluidité, et que c'est très en lien avec l'émotionnel. On parle beaucoup de la respiration, faire de la méditation, mais tout ça, on oublie toujours de dire que cette respiration, elle est en lien avec notre périnée, parce qu'à ce moment-là, le périnée va jouer aussi.
Il va être actionné également dans ce mouvement.
Et ce qui est hyper intéressant, du coup, Laurence, c'est que maintenant qu'on sait ça, qu'on comprend vraiment la fonction et ce qui signifie pour nous, pour notre corps, mais aussi pour notre cerveau, notre bien-être, toi, tu aimes à dire et tu as l'habitude de dire qu'il y a une histoire vraiment particulière du périnée.
Oui, il y a une histoire particulière dans le sens où, en fait, la connexion nerveuse va se faire aux alentours de 3 ans, parce que les fibres terminales de la moelle épinière, elles ne sont pas constituées. Donc, il va être innervé vers 3-4 ans. Et à ce moment-là, l'enfant, il va découvrir qu'il peut... la première fonction qu'il va découvrir, c'est qu'il peut retenir son caca et puis il peut jouer avec. Il peut le faire descendre, le faire remonter, le faire descendre, le faire remonter, se retenir, se relâcher. Et ça, c'est la fonction périnéale. Et en fait, si on reprend... Alors, c'est très freudien, mais Freud décrit le stade anal, le stade oral, le stade anal. Et le stade anal, c'est ça. C'est en fait cette jouissance que ressent le petit enfant à pouvoir jouer avec ses sphincters. Et s'il peut jouer avec ses sphincters et les maîtriser, c'est vraiment par le périnée qu'il le fait. Et c'est très drôle parce que c'est associé avec le « je ». Quand l'enfant se définit en « je »,« je fais ci », »,« je fais ça », c'est souvent en concordance avec ce périnée qu'il maîtrise.
C'est prendre le contrôle de son corps, ou en tout cas apprendre à le connaître et à le faire vivre.
Voilà, apprendre à pouvoir, pouvoir être à l'initiative de quand est-ce que je vais faire pipi, quand est-ce que je veux pas, comment je peux aussi découvrir que je peux avoir du plaisir dans ces sensations corporelles-là. Parce qu'il y a vraiment un érotisme qui se ferait à partir de là. Donc c'est un muscle érotisé.
Et c'est là justement ma question. C'est vrai qu'on comprend par la place qu'il a, et puis par ce que tu viens de décrire dans l'histoire, qu'il a une place dans l'érotisme et la sexualité. Mais est-ce que tu peux nous expliquer? Parce que c'est vrai que c'est, pour autant, on n'en parle quasiment pas. On en parle, en plus, je trouve, de manière assez négative, dans le sens, j'ai une rééducation périnéale à faire. Donc du coup, c'est quelque chose un effort. Et c'est ramené à quelque chose d'assez, enfin, de travail sur soi, mais pas du tout de prise de conscience, d'épanouissement. Enfin, je trouve il y a vraiment un côté assez négatif.
Bah, rarement on t'envoie des patients pour dire allez avec Laurence érotiser votre périnée, quoi.
Non, on va pas me dire allez érotiser votre périnée.
Et c'est très nouveau, et c'est ça que c'est bien, ce qu'on apporte dans Vibrante, hein, c'est de se dire là, le périnée c'est quelque chose d'érotisable.
Et alors, oui, comment, c'est le muscle, c'est quand même le muscle du plaisir. C'est le muscle qui fait qu'on peut être actif dans sa sexualité, et puis on peut, en le contractant, en le mobilisant, ressentir du plaisir, à être l'auteur, être actrice de son plaisir.
Et donc ça veut dire que quand on ne connaît pas son périnée, on peut par exemple le contracter sans le savoir, le muscler, le faire et jouer dessus sans le savoir, ou c'est pas du tout le cas?
En le savant, alors, c'est mieux.
En le sachant, c'est mieux. En fait, ce que je rencontre beaucoup en rééducation périnéale, c'est souvent hommes-femmes arrivent avec une non-conscience de ce muscle. Elles n'ont pas conscience. Ah bon, oui, j'ai un périnée, ou ça, d'accord, alors comment il se contracte? C'est le seul muscle pour lequel on parle, on va dire, on va vous apprendre à prendre conscience. C'est un muscle où les gens peuvent être à l'inverse, c'est-à-dire au lieu d'être dans une contraction qui remonte, vont pousser et penser qu'ils contractent. Il y a une subtilité qui vient là, c'est vraiment cette notion de prendre conscience, de cette mobilité. Et puis souvent, on a une vision erronée. Souvent, le périnée, on va dire, ah oui, c'est la partie entre l'anus et le vagin, ou c'est la partie derrière les testicules, entre l'anus. Bah non, ça c'est en fait le noyau fibreux central, la partie centrale du périnée, mais c'est bien plus large que ça. Et puis, ça rebute, oui, la rééducation périnéale, on y vient après un accouchement, où on a déjà été traumatisé à ce niveau-là. Oui, en plus, ça se fait avec un toucher, on vient toucher l'intimité. Donc c'est sûr qu'on y va... Qu'est-ce qu'on va m'y faire? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais comprendre? Ça amène beaucoup de réticence. On m'a dit qu'il faut le faire, ou on m'a dit que pour... Alors, le truc qui marche bien, oui, je vais le faire parce qu'on m'a dit sinon j'aurais des fuites urinaires.
Ah, exactement. Ou une descente d'organes.
Ou une descente d'organes, etc. Et cette crainte-là amène souvent les femmes ou des hommes qui ont des soucis. On dit, on m'a dit que si je faisais un peu de rééducation périnéale, peut-être que ça allait m'aider. On y vient comme ça, mais c'est vrai qu'on n'y vient pas, du tout par plaisir, ou à part, si un peu plus, quand certaines femmes sont dit, tiens, j'ai découvert, on m'a parlé, j'aimerais venir, mais c'est pas le plus courant qui vont dire je viens parce que j'ai envie de prendre conscience de mon périnée. Par contre, le voyage qu'elles vont faire, ou qu'ils et elles vont faire, est un voyage qui leur fait découvrir leur intériorité, cette mobilité qui les connecte à leur sens, qui les connecte à leur intériorité. Il n'y a rien qui nous connecte à notre intériorité. Et ça, je trouve que c'est une voie de passage formidable pour pouvoir être dans sa sexualité, dans ses sens, dans son ressenti, dans son corps.
Ouais. C'est passionnant hein, de la manière dont
Laurence... Ouais, ça donne envie là. Moi, je suis déjà partie voyager. J'ai commencé le voyage. Carole, ça te tient énormément à cœur le périnée parce que pour toi, c'est essentiel, primordial pour la sexualité.
Ben tout à fait. Et puis ce que je trouve très intéressant dans ce voyage, comme dit Laurence, ou cette découverte du périnée, c'est que on va toucher ses émotions, on va connecter son intimité. Et c'est quelque chose qui est essentiel pour après pouvoir partager dans l'intimité que cette partie-là de son corps, on connaisse parce que ça fait quand même partie de nous et important pour notre sexualité.
Et alors au-delà de la connexion, de cette manière aussi de se relier à son cerveau, à soi, à son corps, qu'est-ce que concrètement ça peut apporter dans la sexualité comme sensation, comme nouveauté
comme sensation.
Parce que ça a l'air d'être... Si beaucoup de personnes ne le pratiquent pas et ne connaissent pas...
Je vais répondre. Après, Laurence donnera son avis. Et je pense que déjà, grâce à la masturbation, qu'on découvre ces sensations et que surtout, on est à l'écoute de son périnée, parce qu'on parle beaucoup trop souvent du stop pipi, pour dire, mais c'est pas que ça. Et donc, quand on fait de l'éducation à la masturbation, c'est pour ça qu'on demande de passer du temps pour écouter ce qui se passe, comment on regarde aussi sa vulve ou son pénis dans sa masturbation, parce qu'il faut prendre conscience, et je pense que aussi d'avoir un schéma pour montrer, pour faire prendre conscience où tout ça se trouve, parce qu'on n'en a jamais parlé. Enfin, c'est encore des choses qu'on ne parle pas.
Oui, Laurence. Et puis je pense que ça... Ce qu'il faut... en fait, là, du coup, on connecte quand même son petit bassin là où là, il y a sa génitalité. Il faut quand même, quand on a une excitation sexuelle, ça va se passer dans son sexe. Et c'est bien ça qu'on va amener à pouvoir repérer aux patients, aux patientes. Et puis, si la personne, elle arrive à jouer avec son périnée, c'est-à-dire pour une femme, être capable de pouvoir le relâcher, pour pouvoir se laisser pénétrer, mais de contracter pour sentir le sexe de son partenaire, pouvoir jouer avec cette contraction, ce relâchement, pouvoir serrer et tenir serré un peu plus longtemps, pouvoir augmenter cette contraction, pouvoir jouer avec sa vitesse, avec sa lenteur, eh bien, c'est toute une palette qu'elle va pouvoir ressentir. Et pour l'homme, c'est tout à fait la même chose. Quand même, dans l'éjaculation précoce, un des soucis, c'est un périnée qui est en hypertonie. Cet homme qui va être capable de pouvoir moduler sa tonicité périnéale, pouvoir jouer avec son tonus périnéal, c'est aussi pouvoir lui aussi jouer avec son excitation sexuelle, pouvoir la faire redescendre, pouvoir la faire remonter, pouvoir décider de quand est-ce qu'il décide d'aller vers l'éjaculation. Donc c'est aussi un moyen de s'approprier sa sexualité, de décider de quand est-ce que, comment je jouis, comment j'ai envie de jouir, comment j'ai envie, si j'ai envie que ça se contracte plus vite, parce que j'ai envie que ça s'augmente. Et du coup, à ce moment-là, j'augmente la cadence, j'augmente la rythmicité de mes contractions.
Et en fait, ça va aussi avoir une influence, par exemple, dans la relation à deux, si la personne contracte, j'imagine qu'il va y avoir aussi plus de sensations du côté du partenaire, et inversement aussi pour le partenaire, par exemple, s'il souhaite beaucoup plus jouer avec ce que tu viens de dire, bah ça va créer d'autres tensions, d'autres récits dans la sexualité.
Oui, ils vont créer leur propre sexualité parce que ça va passer par de la communication, par du ressenti. Comment parler de son ressenti? C'est ça qu'on fait pas beaucoup en sexualité, c'est de parler de mon ressenti. Souvent, on a la question, c'était bien? On s'en fiche de ça, c'était bien. Mais qu'est-ce que j'ai ressenti? Parce qu'à chaque fois, c'est différent, la sexualité. Même avec le même ou la même partenaire, c'est différent. Et donc, mais pour que ça soit enrichi, il faut aussi pouvoir communiquer sur ces sensations.
Ouais, je pense que ça, c'est un fait important de pouvoir discuter, dialoguer de ce que... voilà ce que j'ai ressenti là, ce que j'ai envie là, ce que je... Ouais, je crois que le dialogue au cours de la sexualité, c'est vrai que c'est un des... Enfin, je pense que maintenant, les couples parlent plus de leur quotidien, de ce qui est difficile pour eux, etc. Mais discuter sur ce qu'on ressent dans sa sexualité ou ce qu'on osait dire, tiens, j'ai envie que tu restes un peu plus ou tu ne bouges plus. et juste que je te sente en moi, ou juste sentir que je suis en toi, et ben ça, ouais, je crois que c'est encore une étape de dialogue qui reste à explorer.
À éduquer.
À éduquer, ouais.
À autoriser.
De toute façon, ouais. Ouais, on en revient toujours, toujours à ce sujet de, on n'a pas d'éducation sexuelle correcte en France et que ça amène énormément de problèmes dans la communication quand on passe à une relation à deux ou dans la découverte de son propre corps dès l'adolescence.
Ouais, je trouve. Enfin, ce que je trouve, ce qui je me permets de faire aussi ce petit parallèle, parce qu'effectivement. Je pense dans l'éducation à la sexualité, de ce passage de connaître son périnée, c'est quelque. En fait, on fait plus genre, enfin, on va plus être dans le tabou, dans on ne montre pas, dans il faut éviter. Regardez, enfin, par exemple, si on prend le clitoris, il est très peu montré. Le périnée, on en parle un peu plus, mais pas vraiment dans sa totalité. Et c'est vraiment parce que je me connais moi, parce que je me connais dans mon corps, que je peux mieux accueillir l'autre, que je peux être mieux avec l'autre aussi, si je me connais moi-même.
Oui, on n'en parle vraiment pas beaucoup du périnée. Tu vois, maintenant, le clitoris s'est explosé, on le voit partout. Mais maintenant, il y a très peu de gens qui connaissent le périnée comme fonction sexuelle. Parce qu'on parle souvent du petit bassin, du chakra de la sexualité. Oui, mais ça, c'est que des mots, ça. Pour aller dans tout ce que tu nous as raconté, on l'entend très, très peu.
C'est le premier chakra, hein, le noyau fibre centrale du périnée. C'est
faudrait
le premier chakra.
Qu'on nous donne un guide pour ce voyage, justement, puisqu'on parle de ça. Qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui nous écoutent pour connaître et apprendre leur périnée?
Moi, je leur conseillerais déjà de... Je trouve que c'est bien de voir des schémas, déjà, pour voir à peu près. Alors, ils ne sont pas toujours... forcément très évident, des images en tridimension, faut la voir du dessous parce que finalement on a enlevé les jambes, donc faut un peu se représenter où c'est à peu près son clitoris, où c'est sa vulve, mais on va bien voir que c'est ce muscle qui ferme ce petit bassin. Moi, je trouve que ça peut être déjà une première chose. Et puis, en fait, le périnée, quand il se contracte dans sa mobilité, il va remonter, se fermer, il peut avoir comme ça, hein, se resserrer. On sent quelque chose qui se resserre entre ses ischions. On peut sentir quelque chose qui remonte le long de son vagin ou qui remonte vers le diaphragme. Cette sensation de soulèvement, donc déjà, enfin, le stop pipi, c'est vrai que c'est un peu juste, mais ça peut être un préalable, dire bah tiens, est-ce que j'arrive, et après de le refaire et de sentir quelles sensations ça provoque, et est-ce que je sens que ça remonte, est-ce que je sens que ça aspire vers l'intérieur, est-ce que je sens que ça referme l'espace du bas, ça peut être déjà ou et pourquoi pas essayer avec, soit en se touchant, soit avec un sextoy, et sentir cette pression qu'on va exercer autour du sextoy, autour de son doigt, par cette action périnéale.
Carole, toi, il y a des conseils aussi que tu donnes, justement, quand tu reçois des personnes dans ton cabinet et qu'il ou elle souhaite découvrir ou explorer cette facette-là ?
Je donne à peu près les mêmes conseils que Laurent, c'est-à-dire de regarder. J'ai une petite photo pour leur montrer et d'être connecté à leurs sensations. Ça, c'est le plus difficile à
appréhender.
À appréhender cette, parce que des fois, ils reviennent et puis ils disent « Ah, c'était un peu saoulant quand même, la manière de se masturber ou la manière... » Et puis, leur faire décrire les émotions, qu'est-ce qu'ils ont ressenti dans leur corps, où c'était. Donc, ça, c'est plus compliqué. Parce que moi, je ne suis pas kiné, donc dans mes séances, je ne peux pas les accompagner. Et voilà. Après, ce que je peux dire, et pour que Laurence puisse continuer un peu là-dessus, c'est que toutes les personnes qui ont des douleurs... par exemple, au moment de la pénétration. Ça, c'est une évidence que je les conseille tout le temps d'aller voir quelqu'un, parce qu'on ne peut pas avoir mal en pénétration. et que c'est un moyen d'aller voir un spécialiste, une spécialiste de la rééducation du périnée, pour voir ce qui se passe et que du coup, là, la conscience du périnée, elle est réelle, quoi.
Ce que je rajouterais peut-être, c'est les boules de geisha. Alors après, pas la boule de geisha, je la place à l'intérieur de mon vagin et point barre, mais plutôt de faire bouger cette boule de geisha à l'intérieur de son vagin, de sentir que avec le périnée, je contracte, elle va voyager à l'intérieur de mon vagin, je peux la faire remonter, je peux la faire redescendre. C'est vrai que Carole parle des douleurs. Souvent, dans les douleurs, il y a souvent des hypertonies, c'est-à-dire un périnée qui est en contracture, en défense. Parce que la personne a mal, et quand on a mal, au bout d'un moment, on se contracte, on serre, on a peur d'avoir mal. Et le périnée va être un peu un élément de cette boucle qui fait j'ai mal, comme j'ai mal, je me contracte encore plus, et puis je me contracte encore plus, donc j'ai encore plus mal. Et en fait, un des moyens de sortir de ce cercle-là, c'est de pouvoir aller venir prendre tranquillement le temps d'aller parler de ce périnée, dire qu'il existe, qu'il est là, que peut-être que là, avec toute cette douleur, ça effraie, ça fait peur, et du coup, on se resserre. Et comment on va prendre le temps de décontracter, de prendre conscience de ce muscle-là.
Après, effectivement, quand on fait du yoga ou du pilates, on peut aussi se connecter à ce muscle-là. Et je trouve aussi que très peu de personnes, très peu de profs en parlent vraiment parce qu'on pense toujours périnée, intimité. Mais qu'effectivement, au cours de yoga, on pourrait prendre déjà conscience de ce muscle qui bouge. Mais si on dit contracter votre périnée, on fait quoi ? Comment ?
C'est où ce truc-là ?
Voilà. Donc, c'est des petites choses comme ça.
Et puis, ce que tu me disais avant qu'on enregistre, Carole, c'est que le périnée reçoit les impacts qu'on ressent aussi. Il déclenche des choses, mais il accueille aussi beaucoup de choses. Je pense notamment à l'émotionnel, à des abus sexuels. Mmh. Comment est-ce qu'on fait avec ça ?
On va voir Laurence. Comment on fait que ça ? Parce que comme Laurence nous l'a expliqué, je veux dire, c'est l'endroit où on se laisse pénétrer, où on accepte cette pénétration. Et que c'est un muscle émotionnel de sensation. Donc, dès qu'il y a quelque chose, obligatoirement, l'émotionnel se met en place.
Il agit vraiment comme, du coup, quand il y a eu des vécus difficiles, des abus, il va être protecteur. Et protéger, pour lui, c'est fermer, par essence. Il faut protéger cette intimité, il faut donc la fermer et laisser personne revenir dans l'intrusion. Ce qui est parfois compliqué à comprendre pour les personnes, parce qu'elles disent non, alors c'est dans ma tête, dans mon corps, on a un corps, une tête, et quand on a vécu un trauma, il y a la trace dans son psychisme, mais il y a aussi la trace du corps, et le corps aussi, lui, va parler de ce traumatisme à sa manière, à lui aussi, et va vouloir se protéger de ce qu'il a vécu.
Et c'est important aussi de se protéger, et après de se reconstruire et de se le réapproprier à nouveau.
Exactement. Je crois que c'est ce que je dis souvent à mes patientes. Si ça fait ça, si ça bloque et ça fait le mur, c'est qu'il y a une envie de vous protéger et que ça a respecté ce moyen de protection que votre corps a trouvé et qu'on va prendre le temps de mettre en confiance pour qu'il puisse pouvoir se relâcher. Mais ça demande de réapproprier, de se remettre en confiance, de retrouver ce corps, de se le réapproprier à soi, surtout quand il a été, qu'il y a une intromission, un abus.
Et puis c'est aussi réapprendre aussi que la sexualité n'est pas que pénétration.
Tout à fait.
Et qu'à ce moment-là aussi, on peut travailler sur une autre sexualité le temps que le corps reprenne confiance à ce qui s'est passé.
Merci beaucoup. Je crois que c'était vraiment, je me dis, on pourrait même l'appeler tout ce qu'il faut savoir sur le périnée que vous ne savez pas encore et que vous avez envie de savoir, mais vous ne le savez pas que vous le voulez. Merci vraiment, Laurence. Est-ce que tu veux dire un dernier mot à nos auditeurs, à nos auditrices sur ce sujet du périnée ou pourquoi est-ce que c'est si important pour toi ?
Pour nous tous.
Pour, oui, non, mais pourquoi est-ce que tu as choisi en tout cas de porter ce message-là et de le dire et de venir au micro en tout cas d'en parler?
Alors, pour moi, c'est un sujet qui est une vraie passion. Et puis, c'est pour moi, vous avez compris, une vraie voie de passage pour pouvoir amener le patient, la patiente à pouvoir rentrer en lien avec son intériorité, à pouvoir s'approprier aussi sa sexualité. Le dernier message que je ferais passer, je parlais de ça à Carole, où je lui disais, on parle beaucoup de l'hymen, l'hymen, les jeunes filles, elles sont là, l'hymen, est-ce qu'on... Mais en fait, bon, l'hymen, ce n'est pas énervé, mais le vrai passage qui va se faire au moment de cette première pénétration, c'est est-ce que je vais pouvoir relâcher, pour avoir suffisamment confiance pour relâcher mon périnée, est-ce que je vais être en accord avec ce qui se passe? Parce qu'il y a aussi cette notion de oui, j'ai envie, je veux, oui, mais enfin, dans votre corps, ça ne dit pas peut-être tout à fait la même chose, et que c'est aussi à écouter ça. Donc voilà, j'invite même les jeunes filles à pouvoir se connecter, s'intéresser à leur périnée.
Se connecter à leurs envies, à leur corps.
Et on en revient toujours au sujet de s'écouter et se connaître. Merci beaucoup, Laurence, d'être venue au micro de Vibrante. C'était un vrai plaisir. Moi, j'ai appris plein de choses. J'espère que c'est le cas aussi des auditeurs et des auditrices. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.
Merci à vous.
C'était Vibrant, Vibrante, un podcast de Ground Control en partenariat avec le magazine Causette.